Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Laitue, Batavia, mâche, roquette, plus de la moitié des amateurs de salades les achètent en sachet. Rapide et pratique, ces salades prêtes à consommer ont-elles pour autant les mêmes qualités nutritionnelles que les salades fraîches? C'est l'enquête de la semaine. Une mauvaise literie peut contribuer aux insomnies et aux troubles du sommeil. Alors, à ressort, en mousse, en latex, à mémoire de forme, quel matelas choisir pour mieux dormir? C'est la question de la semaine. Bien qu'assez méconnue, la gastronomie écossaise est variée et regorge de spécialités d'exception. Alors comment s'initier et cuisiner le fameux haggis, les tatty scones, ces délicieuses galettes à base de pommes de terre, ou encore le Dundee cake à base de fruits secs et de whisky? Yups, ce sont les recettes de la semaine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous accompagner chaque samedi dans Nous voilà bien et de commencer le week-end ensemble. Que vous soyez sous la couette, devant votre petit-déj ou sur la route, eh bien nous avons pour mission de vous aider à mieux consommer. Et c'est jusqu'à 10h sur RTL. C'est parti. Chiropoulos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bienvenue sur RTL. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et le numéro de février de 60 millions de consos est d'ailleurs en kiosque actuellement. Dites-moi, Patricia, est-ce que c'est normal à chaque fois que j'achète une salade en sachet que j'ai l'impression de manger une salade aux produits chimiques? Allô, Javel.
Alors, non, il ne faut pas exagérer. Hein. Alors, effectivement, elles sont quand même laver avec traiter avec de l'eau chlorée. D'accord. En petite quantité, évidemment. Donc, normalement, il ne reste quasiment pas de résidus de chlore dans la salade. Okay. Mais c'est vrai que à la maison, vous ne le faites pas, c'est sûr.
Voilà. Mais alors, d'un point de vue sanitaire, donc c'est nickel.
Avec ça, les micro-organismes, salmonelles et compagnie, donc, sont éliminés, elles sont bien lavées. Donc, c'est que d'un point de vue sanitaire, il n'y a pas de problème. Au moins, ça, on peut les acheter en toute tranquillité, en tout cas.
OK. Et d'un point de vue nutritionnel?
Ben, c'est pas si mal. Les scientifiques nous l'ont confirmé. Globalement, les vitamines, par exemple B9, K, les fibres, etc., sont conservées pour les salades en sachet. Le seul petit hic, on va dire, c'est la vitamine C, qui est une vitamine extrêmement fragile. Et comme il y a beaucoup d'étapes de préparation, découpage, lavage, donc elle peut être détruite pendant le process de fabrication.
Où est-ce qu'elles sont cultivées, ces salades vendues en sachet?
Bah, elles sont globalement cultivées en France, hein, pour les deux tiers en France. Alors, sauf en hiver, bah, évidemment, en hiver, notre climat ne permet pas la culture en plein champ, donc elles viennent plutôt d'Italie ou d'Espagne, sauf la mâche, hein, puisque c'est la salade d'hiver. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, même si on ne sait pas toujours, puisque l'origine n'est pas forcément marquée sur le paquet.
Ok, d'accord. Et dites-moi, comment est-ce qu'elles sont sélectionnées aussi, ces salades? Parce que, est-ce qu'on ne va pas retrouver, je dis n'importe quoi, mais dans un sachet, des salades fraîches qui ne pourraient pas être vendues telles parce qu'elles sont abîmées?
Ah non, alors heureusement d'ailleurs, hein. Pas du tout. D'accord. Alors en fait, ce sont même des parcelles qui sont spécifiques pour les salades en sachet. Hein. Donc c'est vraiment, souvent elles sont près d'usine, près d'emballage, etc. Avec un cahier des charges qui est spécifique. Donc ce sont vraiment des salades qui sont, on va dire, soignées et qui sont évidemment pas abîmées. Hein. Sinon ça ne marcherait pas.
Ok, il y en a même des bio hein, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Alors, c'est que ce n'est pas encore très développé, mais il y en a, enfin les grandes marques commencent à en faire, ouais, tout à fait.
Est-ce que je dois quand même les laver avant de les manger?
Alors, c'est vrai que c'est souvent la question qu'on se pose. Alors, en fait, il faut distinguer. Il y a la salade prête à l'emploi. Donc, celles-ci, elles ont été déjà lavées. Elles sont conservées dans les meubles réfrigérés à 4 degrés. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de les laver. Vous pouvez les mettre directement dans l'assiette. Après, c'est peut-être pas mal aussi de les laver pour enlever éventuellement le chlore. Mais juste, c'est qu'il faut les distinguer des salades pré-emballées. Donc, on peut aussi trouver en grande surface. Ces salades sont parfois avec les salades normales, on va dire. Hein. Elles sont juste pré-lavées, on va dire, et pré-découpées, c'est tout. Il faut les laver, celles-là.
Donc, ce que vous me dites quand même, c'est que même si elles ont été lavées auparavant, il peut quand même rester sur les feuilles des résidus de chlore ou de produits chimiques.
On n'est pas à l'abri. Alors, pas d'autres résidus chimiques, a priori, mais effectivement, des résidus de chlore, sauf quelques fabricants qui commencent à utiliser de l'ozone pour désinfecter. Donc, effectivement, vous ne perdez rien à les laver un petit peu plus. Hein.
Oui, je suis d'accord. Certaines salades se conservent mieux que d'autres en sachet. Comment est-ce qu'on conserve, justement, dans un sachet fraîcheur? C'est quoi la
différence? Alors, ces sachets, ces sachets sont conçus hein, pour, en gros, ça tient 8 jours après l'emballage. Donc, vous avez une date, hein, donc ça s'appelle la DLC, la fameuse date limite de consommation. Donc, c'est 8 jours après emballage. Quelle que soit, globalement, la variété, ajouter, même si apparemment la pâte à viande est un peu plus fragile. Et ensuite, une fois que vous avez ouvert le paquet, ça ne se garde plus que 1 ou 2 jours, toujours dans le réfrigérateur, à 4 degrés idéalement, toujours.
Ok, donc on ne peut pas les consommer après la date de péremption.
Non, alors bon, après, ça peut être éventuellement un jour. Après, c'est aussi à voir visuellement, vous verrez que les feuilles sont peut-être flétries. Alors surtout, ce qu'il ne faut pas consommer, c'est si vous voyez un liquide brunâtre au fond du sachet. C'est que là, il peut y avoir justement des micro-organismes qui se sont développés, pas toujours sympathiques. Donc si vous voyez que le sac est gonflé, si vous voyez ce liquide brunâtre ou des feuilles flétries, bon là par contre, c'est à la poubelle.
Une fois le sachet ouvert, on le remet dans le frigo comme ça, ou est-ce que vous nous conseillez quand même de la conserver, je sais pas, dans une boîte, dans un Tupperware?
Normalement, le sachet étant déjà un sachet, on va dire, un peu technique, il suffit de refermer le sachet, vous le remettez dans le frigo, vous pouvez le garder tout à fait dans le sachet, ça, il n'y a pas de problème. Et toujours pareil, 1 ou 2 jours maxi après. Une fois que c'est ouvert, comme c'est normalement sous atmosphère protectrice, dès que vous l'ouvrez, le milieu n'est plus protégé.
Oui, je comprends. Ces salades en sachet, en fait, elles coûtent plus cher que les salades fraîches, non?
Ah ben oui, alors là, évidemment, ça, c'est sûr, c'est extrêmement pratique, mais ça a un prix, c'est au moins 2 fois plus cher, voire davantage. Wow. Après. Ouais, ça, évidemment, il y a la main-d'œuvre, il y a l'usine, il y a sac plastique, donc tout ça, ça coûte cher. Donc, enfin, cher tout est relatif. En gros, le kilo, ça peut varier de 2-3 euros selon la variété, à plus. Ça dépend si vous prenez un sachet économique ou pas, des gros sachets, les petits, alors qu'une salade, ça peut être à moins de 1 euro. Ouais. Bon, mais il y a la perte, évidemment, quand vous préparez une salade, en gros, vous perdez 15-20% parfois.
Mais donc, en dehors de l'aspect pratique, quand même, Patricia Chiropoulos, quel est l'intérêt d'acheter des salades en sachet? Pardon, vous avez compris, moi j'achète mes salades toutes fraîches, et je trouve ça chouette de les laver, enfin voilà, ça fait partie du rituel de la cuisine. C'est quoi l'avantage du sachet?
C'est vraiment parce que c'est pratique, parce que c'est rapide, et c'est vrai que ça fait la fameuse ration, ça fait un légume vite fait, vite préparé. Ouais. Je crois que c'est vraiment pour ça, on rentre du travail, on n'a pas forcément envie de s'embêter. Et en plus, si on cherche des variétés un petit peu plus spécifiques, si vous voulez de la roquette, de la mâche, voilà, mais c'est vraiment la praticité, ça a un prix, mais bon, de temps en temps, pourquoi pas.
Le prix de la tranquillité, quoi. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'au niveau du goût, c'est pas du tout la même chose.
Là, c'est autre chose, oui, parce que c'est souvent un peu moins craquant. Et bien, le fait que c'est résidé sous sans sachet, sous atmosphère protectrice, ça change, c'est pas physiologique, c'est pas naturel. C'est vrai que vous n'avez pas retrouvé effectivement le goût de la salade fraîche, d'autant plus qu'elle aura été gardée plusieurs jours, même si elle est protégée.
Oui, je comprends. Et à l'heure où l'on essaie quand même de réduire l'utilisation du plastique, c'est pas un peu paradoxal de continuer à vendre des salades sous plastique?
Alors oui, ça c'est vraiment, c'est le point noir, des salades en plastique, dans les sachets plastiques, c'est que pour l'instant, c'est vrai que c'est très bizarre, et surtout c'est que la réglementation qui évolue sur les fruits et légumes en vrac, qui n'ont plus le droit d'être vendus pré-emballés, par contre les salades, elles peuvent continuer. Alors il y a quelques fabricants maintenant qui proposent des sachets en papier recyclable, mais il y en a encore très peu. Donc, oui, c'est dommage. Oui, ça ne va pas du tout dans le sens de durabilité, pardon.
Dernière question, parce qu'elle a été posée, justement, en préparant cette émission. Puisqu'on parle encore du plastique, est-ce qu'il y a aussi des composants de plastique, des sachets de salade qui peuvent se retrouver dans notre organisme? Parce qu'on en parle de plus en plus, justement, de ce plastique qu'on peut, à un moment donné, retrouver partout.
Alors, bon, il n'y a pas d'études. Je dirais qu'a priori non, parce qu'en général, les migrations à partir des emballages et notamment du plastique, c'est vrai que c'est lorsque l'on chauffe. Vous chauffez, voilà. Là, elle n'est pas chauffée, elle est même gardée au frais. Après, on n'est jamais à l'abri peut-être de particules de microplastiques qui peuvent se retrouver dans la salade. Je dirais que le problème se situe plus en aval, une fois que ce sachet plastique va se retrouver dégradé dans l'environnement. Mais là, on n'est plus dans la santé, indirectement. Mais bon, mais voilà, globalement, évidemment, si on peut éviter le plastique, de toute façon, c'est
on est d'accord. Et puis moi, je trouve ça meilleur. En tout cas, merci beaucoup Patricia Chiropoulos pour cette étude que vous avez donc faite pour 60 millions de consommateurs, que l'on retrouve actuellement en kiosque. Vous dormez bien, vous? Vous êtes satisfaite de votre matelas?
Pas toujours.
Parce qu'on va parler des matelas dans un instant, parce qu'on se demande toujours ce qui nous correspond le mieux pour passer de bonnes nuits. Et bien, on en parlera dans un instant dans la suite de Nous voilà bien. À bientôt, Patricia Chiropoulos.
À bientôt, merci.
À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est l'émission qui vous aide à mieux consommer, mais qui vous aide également à vous régaler. Dans un instant, on va partir en Écosse à la rencontre de Sarah Lachab, qui va nous donner des recettes justement écossaises. Et je pense que vous aurez envie de cuisiner. Mais pour l'heure, comment sont vos nuits à vous ?
Les matelas.
Les matelas.
Bonjour Alexandre Cassis.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la formation du groupe Adova, qui regroupe des marques de literie françaises, donc Treka et Simons. Dites-moi Alexandre, est-ce qu'après vous avoir entendu, vous me garantissez que je vais passer une bonne nuit?
Je vous le souhaite, en tout cas on va tout faire pour.
Mais ça tient vraiment au matelas ça?
Écoutez, c'est un des éléments clés et un des éléments indispensables pour bien dormir. C'est même, je dirais même plus, c'est la literie.
Oui, c'est ça.
On parle souvent que du matelas, mais il y a aussi tous les éléments qui vont autour de la chambre. Donc, ça peut être le sommier, ça peut être les oreillers, le linge de lit. C'est tout cet environnement qui va faire qu'on va bien dormir.
Et vous, vous dormez bien alors, j'imagine, puisque c'est votre métier?
J'ai la chance d'être bien équipé, on va dire.
Ah, dites donc. Alors, Alexandre, dites-moi... On va parler non pas de vos nuits, hein, ni de vos équipements, mais on va parler de nos équipements à nous dans nos chambres pour bien dormir. Parce que alors ça, je me suis toujours posé la question, parce que c'est pareil, l'achat d'un matelas, c'est pas un achat anodin, parce qu'on on en prend pour combien de temps?
En moyenne, voilà, l'idéal c'est de changer tous les 10 ans. En France, on le change tous les 14 ans, mais l'idéal c'est de changer tous les 10 ans, au moins pour des questions d'hygiène.
Ah ouais, donc c'est un mariage quoi, hein, donc il faut pas se planter.
C'est un bon mariage, on va dire, voilà.
Et on n'ose pas toujours dans les magasins s'allonger sur les matelas, c'est toujours un petit peu délicat. Vous voyez, vous nous conseillez vraiment à un moment donné d'éprouver les matelas, d'éprouver ce qui va faire notre lit potentiellement.
Voilà, il ne faut surtout pas hésiter à s'allonger, mais surtout à s'allonger dans la position dans laquelle on est la nuit.
Oui.
Donc pour connaître un peu cette position dans laquelle on dort, on ne se voit pas lorsque l'on dort, il faut mémoriser la position dans laquelle on est réveillé.
D'accord.
C'est la position dans laquelle on dort.
Bon, donc oui, parce que c'est un peu public, vous voyez, c'est un peu intime la position dans laquelle on dort, quoi. Mais ce que vous nous expliquez, c'est qu'il ne faut pas essayer un matelas en se mettant juste sur le dos comme ça, mais il faut vraiment éprouver le matelas comme lorsque l'on dort.
Exactement, ne pas hésiter à se mettre sur le côté, sur le ventre, sur le dos, essayer plusieurs positions.
Ok, d'accord, c'est noté. Allez, on y va. Pour bien dormir, est-ce qu'il vaut mieux choisir un matelas à ressort, en mousse ou en latex?
Alors, bien dormir, c'est vrai que beaucoup de personnes en rêvent. C'est très subjectif et propre à chacun. Tout dépend de ce qui plaît déjà en termes de confort. Donc, première chose, déjà, le confort doit vous plaire. Vous devez avoir vraiment cette sensation de confort et de bien-être.
Ça,
c'est le premier point. C'est le point idéal, indispensable. Et ensuite, il y a la technologie. La technologie adaptée à beaucoup de dormeurs. C'est en règle générale le ressort attaché. Pourquoi? Parce qu'il vous porte. Et vous pouvez aussi avoir très bien les deux, un matelas ressort et avec un peu de latex ou de mémoire de forme sur le dessus du matelas.
Alors là, vous me parlez comme à quelqu'un qui s'y connaît. Un ressort en sachet, c'est un matelas fait de ressorts qui sont dans des petits sachets blancs, c'est ça?
Exactement, ce sont des petites poches.
Voilà, c'est ça.
Qu'on appelle ça un ressort en sachet, qui permet en fait d'avoir une très bonne indépendance de couchage, donc en fait ne pas déranger son partenaire ou sa partenaire le soir lorsque l'on dort.
Évidemment. Dites-moi, est-ce que la taille ça compte, Alexandre? Je vous explique. Parfois, on a l'impression de mieux dormir dans les grands lits à l'hôtel. Est-ce que c'est lié à la détente et le fait d'être à l'hôtel où la literie, en général, est quand même vachement bien? Ou est-ce que c'est lié aussi à la taille du matelas?
Alors, la taille, c'est vrai que c'est important et ça compte, bien sûr. On dort souvent mieux à l'hôtel car les matelas sont plus grands qu'à la maison.
Ah oui.
On a des matelas qui sont de taille 160 ou 180. Et la taille, effectivement, c'est quelque chose qui est importante. Et plusieurs études, d'ailleurs, prouvent qu'il y a une nette amélioration de la qualité du sommeil sur un matelas plus grand, donc 160, par rapport à un matelas 140 qu'on peut avoir souvent à la maison.
Le maintien et la fermeté. Alors, parlons un peu de ça. Quel maintien et quelle fermeté choisir pour un matelas afin de bien dormir, Alexandre?
Alors, ça va dépendre de notre âge, effectivement. Avec l'âge, on ne dort pas pareil à 20 ans qu'à 30. Donc, notre position de sommeil également change. Donc l'idéal, c'est d'avoir un matelas qui soit ferme, mais pas trop non plus, en fait. Le mieux, c'est d'avoir un matelas qui soit plutôt agréable à l'accueil, donc une première sensation de confort très enveloppante, mais un soutien ferme en profondeur.
D'accord, ok. Et j'imagine que ça dépend aussi de notre corpulence.
Ça dépend de la corpulence, ça dépend effectivement de notre taille aussi,
ouais.
Et la position dans laquelle on dort, si on dort plutôt sur le côté ou sur le ventre. Okay. Et l'oreiller est indispensable aussi pour avoir aussi un maintien parfait.
On va y revenir justement. Sur les matelas, un matelas épais, c'est plus confortable?
En règle générale, oui, un matelas épais est plus confortable parce qu'il a plus de garnissage. Mais attention toutefois à ce qu'il y a à l'intérieur, parce que souvent, vous avez des matelas qui sont très épais, mais vous avez une superposition de mousse. Et la mousse, malheureusement, ça tient chaud et ça ne laisse pas respirer.
Ah, parce qu'il faut que les matelas respirent?
Exactement. Lorsque l'on dort, on transpire naturellement.
Oui.
Et c'est important déjà pour l'hygiène du matelas et pour le sommeil, en fait.
Ah oui, je comprends. Oui, pas se retrouver en nage parce qu'on a un matelas qui n'est pas non plus adapté à notre sudation. C'est ça, en fait.
Exactement, tout à fait.
Dites-moi, le garnissage, là, vous en avez parlé. Il y a quoi? Il y a du coton, de la laine, de la soie? Il y a de la
soie? Alors, dans les matelas, il y a un peu tout. Il y a des fois des garnissages en polyester, en polyuréthane. Les garnissages naturels sont les garnissages qui ont des propriétés extraordinaires. puisqu'elles sont notamment, elles ont une propriété de régulation de la température du corps, donc elles vont favoriser l'endormissement,
ouais.
Donc pour un sommeil en profondeur. Et on a fait donc ce pari chez Timmans, en lançant pour la première fois sur le marché une collection de matelas nommée Génération, composée à 100% de matières recyclables.
Ah,
alors
bon,
c'est indispensable, exactement, c'est indispensable pour préserver les ressources de la planète et respecter le confort et le bien-être.
Ah, c'est bon ça. D'accord, ok. Donc, il existe des matelas 100% matière recyclable, ce qui est quand même en plus un acte plutôt intéressant. Ils sont plus chers ou pas ?
Non, exactement. Donc, c'est ce qu'on a fait dans notre groupe. Donc, on propose pour la première fois une collection qui s'appelle Génération de matelas,
ouais.
Et avec des matériaux 100% recyclables et avec un positionnement prix qui est sur le même positionnement des matelas classiques.
Ok. J'ai encore plein de questions à vous poser, hein. Vous vous en doutez. Parce que c'est vrai que le sommeil, c'est une vraie question, hein, des Français. On va se retrouver dans un instant. Je vais vous parler du surmatelas. Et puis du matelas mémoire de forme. Parce que moi, je ne comprends pas, ça prend ma forme. Mais le lendemain, je trouve ça tout dur, tout désagréable et tout. Et puis on parlera de ces fameux oreillers pour passer de bonnes nuits grâce à vous. A tout de suite, Alexandre.
Avec plaisir.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h. Dans un instant, on va vous donner des recettes écossaises. Alors, ça tient bien au corps. Après, on a envie de passer une bonne nuit. Et ça, c'est grâce à Alexandre Cassis. Alexandre, vous êtes notre meilleur copain ce matin. Parce
Merci.
Que vous nous parlez de notre sommeil. Et d'ailleurs, c'est bien Cassis, votre
Tout
nom
à fait.
Très
Exactement.
Bien. Et ben, c'est très joli. Dites-moi, Merci. Vous nous avez conseillé là déjà au sujet des matelas pour passer de bonnes nuits. Et effectivement, le sommeil est un enjeu de santé publique et la vie n'est pas facile en ce moment. Donc, il est important de bien dormir. Je voudrais juste qu'on revienne sur les matelas avant de passer à la literie en règle plus générale et les oreillers. On dort mieux sur un matelas à mémoire de forme. Moi, ça ne m'a jamais réussi. Hein.
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face au sommeil. Et le confort, c'est très subjectif et propre à chacun. On peut bien dormir dans un matelas à mémoire de forme. Cela dépend de la sensation que vous allez avoir avec la matière. C'est très singulier comme sensation.
Ouais,
maintenant, si on a tendance à transpirer, on va déconseiller la mémoire de forme. ça tient très chaud, voilà. Alors, c'est moins aéré.
Non, parce que là, vous parlez de mes problèmes de transpiration à l'antenne. Mais moi, c'est... Non, moi c'est pas tant ça, c'est que je trouve effectivement que la matière est dure et j'ai l'impression qu'en fait la forme d'une nuit va s'inscrire dans le matelas et que le lendemain je vais être obligée d'être dans la même position. Vous voyez l'histoire ?
Tout à fait.
C'est très désagréable. C'est pour les gens qui bougent pas la nuit, quoi.
Voilà, c'est l'avantage que propose le ressort en sachet, puisque le ressort en sachet va vous porter par rapport à la mémoire qui va vous écraser. En fait.
Voilà, moi je vais être portée. En revanche, il y a un truc que j'ai découvert ces dernières années, c'est le surmatelas, le bonheur.
Le surmatelas, c'est sensationnel. Le surmatelas, il doit vraiment apporter un vrai confort. C'est ce que l'on retrouve dans les hôtels 4, 5 étoiles et dans les palaces. Ça ne doit pas substituer à l'achat d'un matelas. Attention, ça doit vraiment avoir une vraie valeur ajoutée.
Mm.
Ça doit avoir des propriétés qui doivent nous aider à nous endormir, donc favoriser l'endormissement.
Mm.
Et il est préférable pour bien dormir, donc notamment surtout si on a chaud, de favoriser un surmatelas avec des garnissages soit éco-conçus, donc ultra aérés, ou soit des garnissages naturels comme de la soie, du lin, ou de la laine française, comme la laine Mérinos d'Arles.
Quels oreillers choisir quand on est sujet au torticolis, Alexandre ? Déjà, moi j'ai plein d'oreillers, on me dit que c'est pas terrible. Moi je trouve ça chouette, mais j'ai mal au cou.
Ah, les oreillers, c'est magnifique. Les oreillers, c'est une question de goût.
Mm.
Mais également, ce qui est important, c'est d'avoir un oreiller qui soit gonflant. Donc souvent, les gens plient leurs oreillers en deux parce qu'il y a souvent avec les matériaux se tassent.
Mmh.
Alors aujourd'hui, vous avez des oreillers à mémoire de forme, des oreillers en synthétique, mais vous avez aussi des oreillers à mémoire de forme qui intègrent des mini-ressorts entachés pour justement garder le gonflant de l'oreiller. Et également, vous avez des oreillers qui sont confectionnés avec des matériaux revalorisés et éco-conçus, justement pour justement avoir une aération et un gonflant toujours optimal.
D'accord, parce que est-ce qu'on choisit des oreillers différents en fonction qu'on dorme sur le ventre, sur le côté ou sur le dos ?
Exactement. Alors, certaines personnes qui dorment sur le ventre préfèrent dormir sans oreiller.
Oui.
Maintenant, effectivement, l'oreiller, c'est vraiment propre à chacun. Si on dort sur le côté ou sur le ventre, l'idéal, c'est vraiment de l'essayer en magasin dans la position dans laquelle on est ou éventuellement dans une fois sur le côté ou une fois sur le dos.
Et comme vous êtes spécialiste, il faut en avoir plusieurs ou normalement un doit suffire si c'est un bon ?
Alors, normalement, on peut en avoir qu'un. Maintenant, il y a des gens qui préfèrent avoir, par exemple, un oreiller en plume ou en plumette l'hiver parce que c'est un peu plus cocooning.
Oui.
Et un oreiller à mémoire de forme avec du ressort, par exemple, ou en matériaux éco-conçus l'été parce qu'on a envie d'avoir quelque chose un petit peu plus frais.
Bon, et alors, dites-moi, les matelas traités anti-acariens, parce que vous me parliez de plumes, ça m'a fait tout de suite penser aux allergies. Les matelas traités anti-acariens et antibactériens, ils sont dangereux pour la santé ou pas ?
Alors, c'est vrai que les traitements, il faut s'en méfier. Il est vrai que les traitements chimiques, ce n'est non seulement ni écologique, ni bon pour la santé et pour la planète. Il contient énormément de substances nocives, notamment des biocides, certains même des perturbateurs endocriniens. Alors, nous, on a fait le choix chez Simons depuis plusieurs années de supprimer donc tous les traitements biocides sur nos matelas. Donc, pour les personnes allergiques, sachez qu'il existe des matelas avec des garnissages certifiés par l'Association des allergologues de France.
Ok, et donc, on les trouve comment, ces certifications ou ces labels? Il y a des labels d'ailleurs sur les matelas.
Exactement, il y a des labels santé kiné qui existent, des labels de l'ARCA, donc c'est l'Association des allergologues de France, qui existe maintenant depuis plusieurs années.
Bon, dernière question, comment est-ce que j'entretiens mon matelas?
Alors, l'idéal, c'est de tourner tête bêche régulièrement, tous les 15 jours ou tous les mois. Et pour une meilleure hygiène, on recommande de prendre également un bon protège-matelas. Et dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de le nettoyer avec un nettoyeur vapeur, donc passer un petit coup d'aspirateur tout simplement, parce que le premier ennemi de la literie, c'est la chaleur et l'humidité.
Bah dites donc, on en a beaucoup appris hein, grâce à vous. On vous tient au courant Alexandre, sur nos nuits à
avec
venir.
Grand plaisir,
merci à vous, je rappelle que vous êtes responsable de la formation du groupe Adova. Est-ce que vous aimez la cuisine écossaise? Vous connaissez vous ou pas?
Je ne connais pas.
Bon bah vous allez rester à notre écoute, d'accord?
Avec grand plaisir.
À très bientôt, merci Alexandre,
merci,
au revoir.
Merci, au revoir.
Une musique qu'il faut écouter lorsque l'on fait de la cuisine écossaise. Voilà, vous venez d'entendre Scotland the Brave, c'est l'hymne écossais. Sarah Lachab, bonjour.
Bonjour Flavie.
Comment dit-on bonjour? Est-ce qu'il y a un bonjour spécifique en Écosse?
Oh, vous pouvez dire hi pal si vous parlez à un ami par exemple.
Ah, génial, hi pal. Très bien. Soyez la bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes co-autrice du livre très joli Écosse, avoine, aiguisé.
Cranacan,
67 et autres, aux éditions de La Martinière. Alors, c'est intéressant parce qu'on a envie justement de voyager et de découvrir la cuisine écossaise. On fait ça régulièrement dans notre émission. Dernièrement, on s'est intéressé à la cuisine asiatique. Alors, quelles sont les spécialités incontournables de la cuisine écossaise?
Eh bien, Flavie, merci beaucoup de votre intérêt pour cette gastronomie trop peu connue en France. Où on
c'est
a beaucoup de spécialités. Oui, c'est vrai. On pense toujours à la gastronomie britannique ou anglaise en général. Mais pour se pencher sur les spécialités écossaises, il faut ouvrir notre livre.
Exactement.
Et parmi les spécialités qu'on vous propose, bon, vous connaissez peut-être le haggis, qui est l'un des plats les plus connus en Écosse.
Ah, moi, je
d'ailleurs,
dis
on
haggis,
aime bien
hein,
faire
bon.
Peur,
ouais, voilà.
Le haggis.
Voilà. Mais oui, parce que c'est pas très jojo.
Eh bien, c'est vrai que peut-être visuellement, c'est peu ragoûtant, mais c'est un plat absolument délicieux,
ouais.
Qui ravit les cœurs en général dès qu'on l'a goûté. Même si parfois il fait un peu peur au début quand on dit, et parfois on dit c'est une panse de brebis farcie. Mais en réalité, cette panse, on ne la mange jamais, même si c'est le contenant qui permet de cuire la farce que l'on va déguster.
Oui, comme on peut le voir d'ailleurs dans la cuisine française. Hein, voilà, c'est...
Tout à fait.
Il y a du boudin en Écosse. Du boudin
noir. En effet, oui, on a du bon boudin noir. Alors ce boudin, il nous vient de Stornoway, c'est dans le nord-ouest de l'Écosse,
ouais.
Sur l'île de Harris et Lewis. Et ce boudin, il est délicieux, on le trouve surtout sur l'assiette du petit déjeuner écossais, qui est bien
c'est
copieuse.
Dingue. Très bien. On doit aussi goûter aux fruits de mer, dites-nous.
Oui, et c'est vraiment, moi je, dans la vie je suis guide et j'accueille beaucoup de visiteurs francophones en Écosse et c'est toujours une super surprise que ces visiteurs, ces voyageurs se font manger les fruits de mer écossais, le poisson, les langoustines. D'ailleurs, il y a la soupe Cullenskink qui est une soupe de poisson épaisse avec l'aigle fin fumé, le haddock. Qui est absolument délicieuse et comme il y a encore quelques jours d'hiver devant nous, je vous invite à essayer de la goûter à la maison.
Et parce qu'il y a beaucoup de soupes en plus hein, en Écosse.
Bien sûr, je pense que la plus connue c'est le Scotch Broth, c'est aussi une soupe assez épaisse, nous d'ailleurs on propose une version végétarienne dans le livre. Il y a un poète écossais qui dit d'ailleurs de cette soupe qu'elle est si épaisse qu'on pourrait lui serrer la main et l'emmener en balade avant le dîner.
Parce qu'en plus ils ont de l'humour. Alors...
Bien sûr.
C'est ce que je disais en fait, quand on mange écossais, après on n'a qu'une envie, c'est d'aller s'allonger hein, quelque part. C'est la raison pour laquelle on a fait notre sujet sur les matelas juste avant. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, Sarah Lachab, pour poursuivre notre conversation et notre voyage avec vous en Écosse. A tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
On file en Écosse. Il fait pas très chaud, mais qu'est-ce qu'on mange bien? Sarah Lachab est notre invitée. C'est vrai, Sarah, vous êtes guide en Écosse. On peut dire que c'est à peu près la même météo que chez nous, non?
Bien, merci Flavie, oui, vous avez raison, c'est très comparable à la météo française, peut-être même la météo bretonne. Oui,
exactement.
Des températures douces, rarement très très froides, rarement très très chaudes, ce qui est super en été parce qu'il fait doux et on évite les grosses vagues caniculaires.
Voilà, et un petit peu humide. Voilà, comme,
un petit peu humide, voilà. C'est vrai. Mais une pluviométrie à Édimbourg... Oui, c'est ça. Et vraiment, il ne pleut pas tant que ça. C'est la même pluviométrie à l'année qu'à Montpellier, à Édimbourg, si vous voulez.
Bon, bah donc tout va bien. Et vive l'Écosse, quoi. En tout cas, nous, l'Écosse, aujourd'hui, grâce à vous, c'est dans l'assiette. Vous nous avez parlé des haggis. Pardon, hein, je n'ai pas l'accent.
Vous êtes parfaitement bien.
Bon, bah, très bien. Comment est-ce qu'on le prépare, si j'ai envie de le faire moi-même?
Alors, en fait, le haggis, personne ou presque ne le fait soi-même, parce que c'est vraiment réservé aux bouchers. On les achète en général soit à la boucherie, soit en supermarché.
Ouais.
Et ce haggis, il suffit de l'emballer d'aluminium, de le bouillir pendant un certain moment, et puis ensuite, on prépare les deux purées que l'on souhaite à côté. Mais on peut aussi le manger en burger, on peut en faire des petites boules que l'on peut frire. Il y a vraiment plein de formes pour le manger.
Très bien. Je voudrais qu'on parle du porridge, parce que ça, c'est aussi une spécialité, c'est de la bouillie d'avoine. Et je trouve que c'est doudou, moi.
Ah, c'est génial. C'est tellement bien. Franchement, pour vos petits déjeuners, je vous recommande. C'est une céréale très simple qu'on cultive aussi en France. Vous pouvez choisir de les cuire soit à l'eau, soit dans le lait, le sucré ou le salé, mais des fruits secs, enfin ce que vous voulez, des épices. C'est vraiment un petit déjeuner qui fait très plaisir.
Et c'est économique en plus, hein, on peut le dire, hein, parce que ce sont des produits secs. L'avoine, on peut l'acheter dans un magasin bio, on peut le faire soi-même. Enfin voilà, c'est bon.
Exactement. Ouais. Vous pouvez utiliser du lait d'avoine aussi si vous voulez, pas obligé d'utiliser un lait animal. C'est tout aussi bon.
Très bien. Alors, on va parler du petit déjeuner complet écossais. Je vais vous dire pourquoi. C'est que moi, j'ai ouï dire qu'il était réputé pour guérir les pires gueules de bois. Donc ça, on va être à votre écoute, parce que de quoi il est composé ce fameux petit déjeuner magique?
Alors, c'est vrai qu'il est très copieux. D'ailleurs, il est salé, hein, le petit déjeuner écossais. Il ressemble à son voisin anglais, donc il y a des œufs, vous pouvez soit les brouiller, soit les faire sur le plat, les haricots blancs qui sont dans la sauce, les champignons, le bacon. Et en Écosse, on ajoute bien sûr un peu de haggis et du boudin noir de Sœur Noé. Il y a une petite touche très sympa. Mais voilà, si jamais vous avez encore faim, on vous propose les tatis scones. Ce sont des galettes à base de pommes de terre. Oui. C'est une recette super simple.
Très bien. Non, mais en fait, après, on retourne se coucher direct, quoi. Mais on n'a plus la gueule de bois. C'est ça qui est bien.
C'est pour ça que ça marche.
Exactement. Le saumon écossais, il est bon, hein. Comment est-ce qu'il est cuisiné en Écosse?
Alors, on peut le trouver sous plein de formes. D'ailleurs, dans le livre, on vous propose une soupe qui s'appelle la Tweed Kettle. C'est une soupe très légère avec du saumon à l'intérieur. Mais sinon, on le trouve en pavé de manière assez classique. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que le premier produit label rouge non français, donc en France, eh bien, c'était le saumon écossais.
Ah non, j'ignorais. J'ignorais, mais je connais sa réputation, mais je ne savais absolument pas, quoi.
Ouais.
Donc, on peut faire plein de recettes avec le saumon écossais et se régaler. Il y a un truc aussi qui est formidable chez vous, c'est le bœuf Angus, qui fait rêver tout le monde. Quand on le voit à la carte dans des restaurants français, on sait qu'on va manger une bonne viande. Qu'est-ce qu'il a de si particulier?
C'est vrai, c'est vrai. Alors, ce bœuf Angus, donc Angus, ça peut être la variété, mais c'est aussi le nom de la région où l'espèce originelle a été élevée et développée. Donc, quand on peut manger du bœuf Angus qui vient de l'Angus, c'est vraiment super. Et c'est une viande qui est très tendre parce que cette espèce, elle est nourrie à l'herbe en Écosse.
D'accord. À propos de viande, il y a l'agneau des Shetland aussi, hein, qui est très bon.
Oui, c'est vrai. Et l'agneau en général en Écosse. Alors, l'agneau des Shetland, encore une fois, c'est une variété de moutons qui grandit dans les Shetland, mais aussi dans d'autres coins du pays. Également, une viande très tendre qui est exportée dans toute l'Europe.
Il y a quelque chose que j'adore, c'est le cheddar.
Oh, oui, moi aussi.
Bah oui, c'est terrible. Nos fesses lui disent merci au cheddar. Moi, je pourrais en mettre partout, je trouve ça délicieux. Donc ça, c'est quoi? C'est le fromage écossais par excellence?
Écoutez, le cheddar, originellement, c'est un fromage anglais, mais aujourd'hui, il est produit dans tout le Royaume-Uni. Et en Écosse, on le trouve notamment dans les îles. Je pense surtout au fromage de l'île de Mull. Il y en a aussi sur l'île d'Arran. Mm-hmm. Et ils sont trop mignons, ils sont présents. Ils sont tous assez petits et ils sont en fait conservés dans la cire. Donc certains ont des herbes à l'intérieur, des épices. Beaucoup de créativité dans ce domaine, et d'ailleurs comme dans le monde des fromages écossais en général, même si c'est peu connu en France, il y a vraiment des pépites à venir goûter.
Lesquelles?
Alors je pense peut-être au Crowdie, c'est un fromage de vache qui est frais, qui se tartine très facilement, qu'on trouve absolument partout en supermarché en Écosse, malheureusement pas en France. Ou sinon je pense que vous aimeriez peut-être le Lanarkshire Blue, c'est un cousin du Roquefort, un peu plus crémeux.
Ok, d'accord. Il y a un bon brie aussi chez vous?
Oh oui, en effet, on a un brie des Highlands, qui moi je le trouve quand même différent du brie français, mais qui est très bon. Et ce qui est vraiment à la mode en ce moment et qui se développe par mon plus grand plaisir, c'est le fromage de chèvre.
D'accord, ok. Eh bien, on essaiera de trouver ça chez notre fromager ou pas?
On peut trouver quelques cheddar, ça c'est vrai. Oui. Les autres fromages s'exportent assez difficilement en ce moment, mais ça vaut le coup de demander.
Les meilleurs desserts. Est-ce qu'on mange des desserts d'ailleurs là-bas? Parce que, mais avec un bon repas comme ça et du bon fromage comme ça, est-ce qu'il y a encore de la place pour le dessert en Écosse?
Mais oui, bien sûr. Comme en France, on a des superbes desserts en Écosse qui ont souvent des histoires assez rigolotes aussi.
Lesquels?
Par exemple, on aime bien parler, nous, du clotty dumpling. C'est un gâteau cuit au torchon. Qui est dans le livre et qui est peut-être la recette la plus périlleuse pour les fins pâtissiers de votre audience qui voudront se lancer dedans. Et sinon, en couverture, on a mis le Dundee Cake. Dundee, c'est l'une des villes écossaises. Et ce gâteau, il est recouvert d'amandes, il est composé de zeste d'orange, il y a aussi un peu de whisky, il y a des fruits secs à l'intérieur. Il est délicieux, surtout pour la fin de l'année.
Il y a le Cranachan.
Ah ben bien sûr, le Cranachan, c'est le dessert, le roi des desserts écossais. Et celui-là, en plus, il est très, très simple à réaliser à la maison. Il vous faut un petit peu d'avoine que vous allez faire griller à la poêle. Il vous faut de la crème fouettée, du miel, des framboises ou tout autre fruit de saison que vous aimez, tant que ça vient du cœur. Ouais. Et si vous voulez, une petite goutte de whisky. Et là, vous faites quelques couches et ça, c'est succès assuré à tous les dîners.
Ça m'amène à parler de la boisson. C'est vrai? Le whisky, vous n'arrêtez pas de nous en parler, il met du whisky partout en Écosse?
Mais nous, c'est vrai qu'on a ajouté de temps en temps du whisky dans quelques recettes. Ouais. On parle souvent du whisky comme la boisson nationale de l'Écosse parce qu'on en produit énormément, on en exporte énormément. C'est bien sûr pas le seul pays, on produit aussi du whisky en France, au Japon, dans plusieurs autres parties du monde. Mais c'est vrai que le whisky, il est précieux aux Écossais. Et outre en boire à la maison, il faut venir déguster sur place, visiter les distilleries.
Bon, vous nous donnez une petite recette écossaise, pas trop difficile à réaliser? Est-ce qu'il y aura du whisky d'ailleurs là-dedans?
Alors, celle que j'avais peut-être en tête, il n'y aura pas de whisky.
Allons-y.
Mais c'est juste parce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les tatty scones. Alors, tatty, en écossais, ça veut dire pomme de terre. Et scone, même si nous, on connaît les scones à l'anglaise, ça correspond à une infinité de préparations à base de pâtes. Donc là, ça ne sera pas aussi gros qu'un scone. En tout cas, voilà, le tatty scone, il vous faut tout simplement 400 grammes de pommes de terre cuites à la vapeur. Donc, par exemple, si vous faites une raclette, vous en mettez quelques-unes de côté. Vous les épluchez. On rajoute un petit peu de beurre, à peu près 50 grammes, on malaxe à la main. Hop, 120 grammes de farine qu'on ajoute petit à petit. La pâte, elle est assez souple, elle est douce. On la baisse sur 5 mm, où on fait un petit cercle. Et là, on le coupe en 4. Et on a ces 4 petits bouts de galettes, on va dire, et on les cuit à la poêle, quelques minutes de chaque côté. Et c'est délicieux. Et si vous voulez les garder pour le lendemain, vous les remettez au grille-pain et c'est un délice.
Merci à vous en tout cas d'avoir accepté mon invitation en ce samedi matin. Et puis on a très
merci
envie de découvrir tout ça. Et votre livre Écosse, avoine, haggis et Cranachan, 60 recettes et autres aux éditions La Martinière. À bientôt Sarah, merci à vous.
Merci.
Nous voilà bien, c'est terminé pour cette semaine. Si vous n'avez pas tout retenu de cette émission, rendez-vous sur l'appli RTL pour le podcast et sur RTL.fr pour les recettes écossaises au son de la cornemuse. Moi, je vous retrouve lundi à 20h sur RTL pour Jour J. C'est le magazine qui explore notre mémoire collective. Et puis la semaine prochaine, dès 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de votre radio préférée.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.